Radio Okapi.
Le journal Belinda Bossouma.
C'est parti pour l'examen d'État édition 2022. La session ordinaire a démarré ce lundi dans toute la RDC. Cependant, au Nord Kivu, les autorités scolaires déplorent notamment l'agression du M23. À Beniville, la sécurité est garantie, mais à Beni Territoire, certains centres sont carrément délocalisés à cause de l'insécurité. Ituri, 30 personnes mortes ce week-end dans des combats entre l'armée et les rebelles ADF dans 4 villages de Walese et Vankoutou. Du coup, plusieurs habitants et même les déplacés se sont réfugiés vers les camps des militaires qui contrôlent la zone. Et puis, l'invité de ce midi, Jean-Marie Tandoumé, expert en matière d'éducation et promoteur d'une ASBEL d'éducation civique et culturelle. Il s'exprime notamment à l'occasion du début ce lundi en RDC de l'examen d'État édition 2022. Madame, Messieurs, bonjour. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 a démarré ce lundi dans toute la RDC. La province du Nord Kivu aligne plus de 63 700 candidats. Le go a été donné ce matin par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima, pour la province éducationnelle Nord Kivu 1 qui a aligné environ 22 500 candidats. Les autorités scolaires déplorent cependant des nombreux défis sécuritaires, entre autres la guerre du M23. Bernardin Nyangi nous en dit plus.
L'effectif initial des candidats à ces épreuves pour la province éducationnelle Nord Kivu 1 est estimé à plus de 22 000. Il existe quelques défis sécuritaires qui pourront entraîner par ricochet des perditions. L'inspecteur principal provincial de l'EPST qui fait ce constat relève tout de même que certaines dispositions ont été prises. Pero Konepunga.
À cause des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23, les déplacements subséquents des populations, le taux de déperdition sera certes cumulé. Mais en attendant la délocalisation des centres de passation insécurisés vers les milieux sécurisés et l'acceptation des rescapés où qu'ils se trouvent pour passer les épreuves. Les instructions ont été données aux chefs de centre et aux poules secondaires ainsi que aux superviseurs comptassiers.
Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima, a fait observer une minute de silence en mémoire des élèves finalistes et enseignants tués par des balles durant cette année scolaire, entre autres dans le territoire de Rutshuru et de Beni. Il a par la suite encouragé les participants à ces épreuves, ordinaires de 4 jours, à plus de courage. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
À Beniville, 4800 candidats affrontent l'examen d'État si la sécurité est garantie dans les 11 centres de la ville. Cependant, certains centres dans le territoire situés dans des zones de combat sont délocalisés dans d'autres centres jugés sécurisés. Marc Marofimbo nous précise.
Ils sont 4800 candidats finalistes répartis dans 11 centres en ville de Beni à affronter ces épreuves de la session ordinaire. Parmi eux, plusieurs déplacés de guerre venus de différentes zones où leurs écoles respectives ont fermé leurs portes à cause de l'insécurité occasionnée par les atrocités des groupes armés dont les IDF. Pour leur cas précis, le responsable des sous-provèdes en ville de Beni rassure pour leur passation de ces épreuves, Olivier Lengue Matsoro.
Quelques déplacés ont été admis, mais ils vont passer l'examen au nom, en lieu et place de leur milieu. Ils marquent les milieux, ils marquent le centre d'où il vient et tout cela s'arrange comme les années antérieures.
L'autorité urbaine qui a présidé cette activité veut voir les candidats de Beni être classés parmi les meilleurs pour cette session, qu'importe la situation difficile qu'ils traversent dans la région. Le commissaire supérieur principal Narcisse Moutebaka Chalet, maire de Beni.
Nous avons besoin des résultats dans cette ville de Beni. Vous savez, l'année passée, nous étions presque la dernière en pourcentage aux examens d'État. Mais cette fois-ci, nous voulons aussi être classés parmi les meilleurs.
Si tout se passe bien en ville de Beni, les mêmes dispositions sécuritaires ont été prises pour les centres à l'intérieur du territoire, dont la plupart délocalisés à Oicha, chef lieu du territoire de Beni, mais aussi à Mutuanga, Bulongo et même à la cité frontalière de Kasindi. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Kalemi, c'est le gouverneur du Tanganyika qui a lancé les épreuves de l'examen d'État au collège Mwangaza. Cette province aligne plus de 20 000 candidats, dont plus de 8 000 filles. Dans son discours, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Tanganyika 1 a à cette occasion rappelé les candidats finalistes d'innovation qui a été introduite concernant la délibération. Jean-Pierre Soumbou dans ses propos recueillis par Paulin Munanga.
Nous profitons de l'occasion pour dire à tous les candidats qu'à partir de cette année,
Une innovation a été introduite en ce qui concerne la délibération. Par son arrêté du 4 mars 2022, la délibération est modifiée en ce sens qu'un élève dans l'option où il se retrouve ne pourra être délibéré que s'il a obtenu au moins 50% dans toutes les branches d'option. Par exemple, en biochimie, donc s'il a obtenu au moins 50% en biologie et 50% en chimie. Car on ne peut pas concevoir qu'un finaliste de l'option biochimie, par exemple, échoue aux épreuves certificatives dans les branches d'option et qu'il ait son diplôme. Nous invitons donc les candidats à fournir davantage des efforts quant à ceux, tout en évitant les antivaleurs telles que la tricherie.
Province de l'Équateur, plus de 12 000 finalistes du secondaire passent ces épreuves. Ils sont répartis dans 41 centres, dont 15 à Mbandaka. Le gouvernement provincial a pris en charge les frais de participation des candidats autochtones pygmées estimés à 109. L'annonce a été faite par le gouverneur de l'Équateur à l'occasion du lancement officiel de ces épreuves. C'était en présence de la délégation nationale conduite par l'inspecteur général adjoint de l'EPST et des autorités provinciales. Paul-Richard Malengela.
Cette année scolaire, l'autorité provinciale de l'Équateur a fixé les frais de participation à 75 000 francs congolais. Ces frais ont été imposés à tous les élèves finalistes des humanités. Cependant, plusieurs parents et élèves n'ont pu réunir le montant exigé, particulièrement les enfants de peuples autochtones et démunis. C'est pourquoi le gouverneur de province a décidé, au cours du lancement officiel de ces épreuves, la prise en charge totale de leurs frais de participation. Dieudonné Bolokobolumbu a aussi recommandé au président des centres de passation d'Exeta de ne pas chasser les autres candidats non en règle de paiement. Car, a-t-il dit aux finalistes, vous êtes l'élite de demain dont la province a besoin pour son développement. Ainsi, il les a exhortés à bannir la peur, mais à affronter la session avec assurance et détermination en vue de défendre l'honneur de la province en comptant parmi les meilleurs lauréats du pays. Par ailleurs, l'IGA Victor Kongolo, qui conduit la délégation de supervision nationale, a aussi encouragé les candidats. Travailler pour obtenir de bons résultats mérités, leur a-t-il dit, afin de prouver l'efficacité de votre cursus scolaire jusqu'au niveau supérieur et universitaire. Enfin, le gouverneur de province a promis des sanctions à tous ceux qui vont frustrer les élèves, soit se livreraient à des antivaleurs. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Et pour clore ce chapitre, dans la province éducationnelle Maïndoumbi 3, cette mise en garde de l'inspecteur principal provincial, tout inspecteur qui sera surpris dans la pratique de corruption pour encourager la fraude ou la tricherie dans les centres d'examen d'État sera sévèrement puni. Cosmos Yema a également découragé tous les parents qui tenteraient de corrompre les inspecteurs dans le même sens. Il est au micro de Irène Boma.
Avant, c'était une pratique presque courante. Les gens s'organisaient pour préparer l'arrivée des inspecteurs au centre, leur donner des enveloppes pour que la fraude soit organisée à partir même des centres. Mais nous avons déjà pris des dispositions. D'abord, à partir de l'enveloppe même qu'on a allouée aux inspecteurs pour leur séjour, on a fait un effort pour que chaque inspecteur soit à l'aise, qu'il ait un montant d'argent pour pouvoir lui permettre de rester tous les 8 jours de mission là où il va sans problème. Et avec les parents, nous avons eu beaucoup de réunions pour sensibiliser les parents pour que cela ne soit organise pas. Si nous surprenons de telles pratiques, nous allons sévir avec la dernière énergie. Nous avons martelé surtout sur le fait que les parents s'organisent à donner des enveloppes. Ces enveloppes ne se feront pas. Parce que tenter c'est préserver ou présenter les enfants à un échec, ce sont des antivaleurs. Nous luttons contre ces antivaleurs. Parce qu'on peut donner l'argent. L'enfant réussit, il a son diplôme, il a la tête vide. Qu'est-ce qu'il fera dans sa vie?
Je vous le disais en titre, 30 morts dont 22 ADF neutralisés et leurs armes récupérées. Bilan des combats ce week-end entre l'armée et ce groupe rebelle dans les villages Mongé et Panza, Otmaber et Ndimo, dans la chefferie de Walese et Vankutu. Nous sommes bien dans la province de l'Ituri. Selon des sources sur place, parmi les victimes figurent 8 civils dont les maisons ont été incendiées par ces rebelles. Une situation qui a poussé de nombreux habitants dont des retournés à se réfugier vers les camps des militaires qui contrôlent cette zone. L'armée appelle la population à renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre pour en finir avec ce groupe armé. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis samedi soir que les rebelles des ADF, chassés de la localité des Panza, se sont réorganisés dans les centres d'Otomaber en tirant plusieurs coups de feu pour terroriser la population. Ils ont abattu 2 civils avant de se livrer aux actes de pillage et d'incendie de leurs habitations. L'armée est intervenue quelques heures pour empêcher ces exactions et réussit à les repousser loin de cette zone. Presque tout l'après-midi des dimanches, des tirs à l'arme lourde étaient entendus vers la localité de Mongé, à une vingtaine de kilomètres du village Idohu sur la l'axe commando Luna où l'ennemi s'est encore réorganisé. Pendant plusieurs heures de combat, l'armée avance un bilan de 22 rebelles neutralisés et 8 armes AK-47 ainsi que du matériel de communication récupéré des mains de ces rebelles. La société civile, quant à elle, déplore le meurtre de 6 civils tués cette nuit en Dimo où l'ennemi a surpris encore la population. Elle salue toutefois l'intervention de l'armée qui a pris le dessus sur ces inciviques et réussi à sécuriser plusieurs habitants dans leur fuite. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Désormais, les marchandises et les personnes qui quittent le poste frontalier de Kasindi pour Beni et vice-versa seront sécurisées par une patrouille militaire. Cette décision a été prise par le gouvernement provincial samedi à Goma à l'issue d'une rencontre avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, l'Association congolaise des déclarants agréés en douane ACAD et la COPEMECO. C'est à la suite de la grève des commerçants du Grand Nord depuis une semaine pour demander plus de sécurité. Sifa Maguro pour les détails.
Pour le vice-premier président de la FEC Nord Kivu, Berki Chirimwami, les opérateurs économiques ont payé un prix lourd par rapport à cette insécurité sur l'axe Kasindi-Beni. Pour sa part, l'association des déclarants en douane a salué la réponse de l'autorité locale, mais elle demande plus d'efforts au gouvernement central pour qu'une solution durable soit trouvée. Déliance Matata Tsongo, président ACA de Nord Kivu.
L'objectif de l'ennemi, c'est asphyxier les commerces dans les grands nords pour que la population puisse se soulever contre l'État. Le gouverneur vient de prendre une mesure, de trouver une solution pour lever cette mesure de grève qui prévaut à Kasindi.
Le conseiller principal du gouverneur en matière économique et des finances souligne qu'une délégation mixte doit se rendre incessamment à Beni Kasindi, mais aussi à Ishasha pour matérialiser cette mesure et évaluer d'autres besoins. David Kamoua.
Une grande délégation va devoir se rendre dans les Grands Nord pour aller identifier tous ceux qui ont été victimes de ces actes ignobles des rebelles. Nous avons évoqué la problématique des marchandises qui sont bloquées au niveau de Bunagana avant la prise par les rebelles. Nous allons proposer à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le mécanisme de récupération de toutes ces marchandises.
Les dernières victimes de l'insécurité à Bulongo seront également visitées et assistées. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Rutshuru, ce lundi marque la deuxième semaine consécutive d'une accalmie relative dans la région après des affrontements qui opposaient les FARDC au M23. C'est notamment dans les groupements des Jomba, Bueza, Kisigari et Busanza. Bien qu'il n'y ait pas de combat, la population hésite de regagner leur milieu respectif. Pour un député provincial originaire de Jomba, la population s'inquiète du statu quo qui dure longtemps et qui ne rassure pas dans la mesure où tous les habitants traversent des conditions difficiles dans les sites de déplacement où ils sont sans assistance. D'après Emmanuel Ngarouye, la population voudrait voir les FARDC faire tout son possible pour chasser l'ennemi de ces entités. Parlant de l'insécurité dans l'est du pays, cette situation traduit de manière claire l'incapacité du régime actuel à rétablir l'ordre et la paix dans cette partie du pays. C'est en tout cas les propos de Jean-Marc Kabound, le président du parti Alliance pour le Changement, l'a déclaré ce lundi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Jean-Marc Kabound l'a dit à Paul Matendo Mayamba.
La question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité à imposer la paix, la sécurité, voire même l'ordre et la discipline dans ces pays. Ici, il est question d'un État. L'État, ce n'est pas la dixième rue. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'engage. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Le régime Tshisekedi jusqu'aujourd'hui n'a investi rien ni dans l'armée ni dans la police. Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé soutenu par le Rwanda soit-il est en train de semer désolation dans toute la partie Est du pays. Si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire voilà, je vous déclare la guerre. Nous irons faire nos marches de soutien au FARDC en dehors de ce pays.
Province du Tanganyika, une trentaine de maisons en paille et une église ont été incendiées en l'espace d'une semaine à Kongolo. Le dernier cas en date, ce week-end, d'après l'administrateur de Kongolo à l'intérim, il s'agit d'incendies criminels perpétrés par des inconnus. Joseph Kiteba précise qu'aucune perte en vie humaine n'est déplorée, mais plusieurs biens matériels sont partis en fumée. Ainsi, il lance un appel à l'aide en faveur des victimes et sensibilise la population à collaborer avec la police pour mettre hors d'état de nuire ces inciviques. Sud Kivu, Denis Mukwege exhorte le bureau du procureur général de la CPI à poursuivre ses enquêtes en RDC, plus particulièrement dans les zones affectées par les conflits. Le prix Nobel de la paix 2018 l'a dit hier à l'occasion de la journée internationale de la justice pénale internationale. Le condensé de son message avec vous, Cynthia Bachizi.
Le docteur Mukwege se dit pleinement conscient que l'État congolais a la responsabilité première de poursuivre et juger les auteurs de crimes graves commis sur son territoire. Cependant, malgré tous les efforts de justice militaire, Denis Mukwege note une difficulté de la RDC à relever le défi de l'impunité. Voilà pourquoi il en appelle à une action de la justice pénale internationale, un processus complémentaire à la stratégie holistique de justice transitionnelle qui sera bientôt mise en place en RDC. Pour ce faire, le prix Nobel congolais sollicite une implication de toute la communauté internationale. Il faut mettre fin au double standard, à l'humanisme à géométrie variable et donc reconnaître aux Congolais leur droit à la vérité, à la justice, à des réparations, seul gage du non-renouvellement des atrocités, renchérit le docteur Denis Mukwege. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, lancement hier dans le territoire de Miabi du programme de développement local de 145 territoires dans son volet énergie. D'après le gouverneur de province, ces travaux consistent en la construction des mini-centrales solaires et hydroélectriques dans les milieux ruraux. D'autres détails avec Esther Ndalafina.
Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, qui va s'occuper de l'électrification en RTC, a indiqué que les travaux démarrent après 7 mois d'études sitographiques effectuées par une dizaine d'ingénieurs qui ont sillonné les 5 provinces du Grand Kasaï. Il consiste en la construction des centrales solaires et hydroélectriques. Idesbal Chinamula a par ailleurs souligner que le projet prévoit que la première ampoule soit allumée d'ici le 15 décembre de l'année en cours. À cet effet, les maisons résidentielles des milieux ruraux seront électrifiées ainsi que les activités de production. D'après le DG d'Anser, cette électrification va créer des entreprises ainsi que des emplois pour les jeunes. Pour Anser, la deuxième étape consiste en la contractualisation des entreprises qui vont exécuter les travaux dans un bref délai. Bien avant la publication des offres, gouverneurs du Grand Kasaï sont actuellement en Mbujimayi pour être édifiés sur le projet par les responsables d'Anser. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Des pluies torrentielles dans la région du Darfour ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Ces inondations ont aussi causé des dégâts matériels. Selon une ONG qui opère sur place, au moins 100 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement endommagées dans les camps des déplacés. Selon l'ONU, depuis le début de la saison des pluies qui dure de juin à septembre, plus de 6000 personnes auraient été affectées par ces inondations, principalement dans le sud du pays. Au Sri Lanka, le président par intérim a renouvelé l'état d'urgence avant la tenue d'un vote censé désigner le nouveau chef de l'État, cela une semaine après la démission et la fuite de Gotabaya, poussée vers la sortie par une mobilisation populaire inédite au Sri Lanka.
L'invité.
Notre invité est Jean-Marie Ntantoumé, expert en matière d'éducation, mais également promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel, une ASBEL d'éducation civique et culturelle. Il s'exprime à l'occasion ce lundi du début de la session 2022 de l'examen d'État sur l'ensemble du pays. Il fait également un état des lieux après l'organisation du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP, ainsi que de l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP. Jean-Marie Ntantoumé est interrogé par Alain Hirongmouchi.
Jean-Marie Ntantoumé, bonjour.
Bonjour.
Ce lundi 18 juillet commence l'édition 2022 de l'examen d'État. Plusieurs spécialistes en éducation ont souvent décrié la baisse du niveau des élèves qui prennent part à cette évaluation. Quelle est votre lecture à vous?
Nous tenons à remercier les autorités d'avoir organisé d'abord le test pour les finalistes de 6e primaire et notre test pour ceux de la 8e année. Quant aux examens d'État, tel que le décor est planté, après plusieurs grèves, des inspecteurs qui sont chargés de contrôler les élèves, les uns parce que nouvelle unité non encore payée, les autres, bien que très anciens des doyens, ont grévé pour n'avoir pas encore été payés pour les examens antérieurs. Lorsque les contrôleurs eux-mêmes sont mécontents, quels résultats pouvons-nous attendre des contrôlés? Parce que l'inspection est un corps d'inspecteurs. L'inspection ne se réduit pas à l'inspecteur général seul. C'est dire que les inspecteurs étant mécontents, ils font passer le test avec une mauvaise humeur. On ne peut pas attendre de bons résultats. Ils ont même dit qu'ils font passer les examens, mais ils ne pourront pas les corriger tant qu'ils ne seront pas payés. Voilà le décor qui est planté, un décor sombre. C'est pourquoi nous avons toujours dit que on doit faire la différence entre l'enseignement, la politique et la pédagogie. On a beaucoup de D6, beaucoup de gradués, beaucoup de licenciés qui n'ont même pas la valeur d'un ancien élève de l'école d'apprentissage pédagogique qu'on appelle IAP.
Le gouvernement est en train de fournir plusieurs efforts pour améliorer le secteur de l'éducation. Quelles sont vos propositions à vous pour booster ces efforts?
Oui, le gouvernement fournit des efforts, notamment en instituant la gratuité, qui est une bonne chose et qui n'est pas un cadeau du gouvernement. La gratuité est une obligation constitutionnelle, mais on commet l'erreur d'organiser la gratuité jusqu'au secondaire. Et cette gratuité ne doit pas sacrifier la qualité. La qualité doit être préservée au-delà de la gratuité. Or, nos autorités organisent la gratuité sans tenir compte de la qualité. Par exemple, à l'école primaire, au lieu qu'une classe puisse avoir 45 élèves, tout au plus 50, on arrive à 100. On dit, grâce à la gratuité, beaucoup d'enfants étudient. Mais ces enfants qui étudient dans de telles conditions, comment peuvent-ils acquérir des connaissances bien maîtrisées?
Près d'1 400 000 candidats, dont 600 000 filles, étaient attendus à la première édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP, jeudi 14 juillet dernier en RDC. Quelle analyse faites-vous de ces tests d'orientation?
C'est un test fantaisiste.
Nous pensons que il est inutile de retourner au cycle d'orientation qui a fait son temps. C'est un test organisé beaucoup plus comme un fonds de commerce pour aligner des surveillants parmi les militants, les membres de famille, que pour réellement orienter les élèves après la 8e année. Étant donné que les conseillers d'orientation scolaire formés à l'Université pédagogique nationale chôment dans les écoles, sont abandonnés à leur triste sort, la vraie orientation appréciée par les formés ne se fait plus. Chaque enfant est orienté selon sa volonté personnelle ou celle de ses parents. Le cycle d'orientation avait à l'époque une grande valeur parce que effectivement, les conseils d'orientation étaient organisés, étaient utilisés et écoutés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Jean-Marie Tantoumeil, pour terminer, s'il vous était demandé de prodiguer un conseil au gouvernement, ce serait lequel pour améliorer le secteur de l'éducation?
Je leur demanderais d'abord de tout faire pour que les nouvelles unités de tant d'années soient payées, pour que ceux qui sont fatigués, qui méritent d'aller à la retraite, aillent en retraite des vérités, bien payées, parce qu'aujourd'hui, les bonnes écoles, telles que celles des catholiques, ont des enseignants en doublure, c'est-à-dire l'enseignant fatigué ne travaille plus, on engage un enseignant payé grâce aux parents. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On devrait libérer ceux qui sont fatigués. Il y a des enseignants qualifiés qu'on doit avoir. Séparons l'enseignement de la politique et du commerce et nous serons formés comme on a bien formé notre génération.
Dernièrement, nous avons assisté à une révocation massive des sous-prophètes et des prophètes. Tout ça pourquoi? Le népotisme l'emporte sur la qualité, sur la compétence, sur l'expertise. Non.
Jean-Marie Tantoumeil, merci.
Voilà, notre invité expert en matière d'éducation, il répondait aux questions de Alain Rongmouchine. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi Vueta, supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindo à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.